Je ne peux pas vous dire bonsoir puisque nous sommes dans cet après-midi ensoleillé, en pleine nature, à l'ombre des arbres, pour une réunion en plein air et une réunion spéciale de jeunes. Bien que je ne sois plus aussi jeune que vous, je compte vous parler d'un homme jeune, un jeune homme plutôt quand même, une histoire bien connue, tellement bien connue que vous allez la reconnaître d'emblée, c'est l'histoire appelée celle du fils prodigue. Et je la lis dans le Saint-Évangile de Luc, j'ai ma Bible bien devant moi, je la feuillette, j'espère que vous ne vous laisserez pas distraire par d'éventuels bruits ou vols d'oiseaux. Alors restons concentrés, et je lis qu'un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim ?» Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. De ce jeune homme, nous ne connaissons rien de son enfance, sinon qu'il a eu un grand privilège, celui d'être un enfant normal, élevé dans un foyer normal et par des parents normaux. Savez-vous qu'il y a des millions de jeunes de par le monde qui ne peuvent pas en dire autant? Il s'est contenté tout un temps des joies simples d'une vie à la campagne. Mais avec l'adolescence, son esprit a aspiré à des horizons nouveaux et surtout plus larges. Son monde à lui est vite devenu trop petit, et il s'est proposé de l'agrandir. Comme la petite chèvre de Monsieur Seguin s'est mise à rêver à la montagne où l'herbe était fine, savoureuse, dentelée, lui aussi s'est mis à rêver d'un pays lointain où tout devait être tellement mieux que son ennuyeux terroir. Comme la bonne herbe du pré devenait de plus en plus fade à la blanchette, tout à la maison commença à manquer de saveur. Pour lui aussi, les plus belles histoires de la Bible qui avaient enchanté son enfance, Noé construisant son arche, Daniel dans la fosse au lion, les trois jeunes gens dans la fournaise, ou David terrassant le géant Goliath, tout cela lui parut fade. Et comme la petite chèvre, il se mit à voir une longe, une chaîne partout. Monsieur Seguin avait beau allonger la corde un peu chaque jour, elle était toujours trop courte à ses yeux. J'ai connu cette jeune maman, moderne et émancipée, qui élevait ses deux fillettes avec une liberté dont peu d'autres enfants jouissaient, et qui s'est cependant entendu dire par elle « Mais maman, tu nous élèves comme au Moyen-Âge ». Pour lui non plus, plus rien ne lui allait. Il ne pensait et ne vivait plus que pour son Eldorado qui seul était censé lui apporter le bonheur. Les Anglo-Saxons ont un proverbe qui dit « Les collines éloignées sont toujours plus vertes ». Mais il y a deux façons de regarder la vie. Soit comme un adolescent qui voit la vie comme un long ruban bleu ensoleillé, où tout est bien, où tout est beau et dégagé de toute contrainte. Ou bien comme un vieillard qui dit « Je suis parti hier, je voyage aujourd'hui, j'arriverai demain ». Lorsque le patriarche Jacob arriva en Égypte, il avait 130 ans. Le pharaon, impressionné par ce noble vieillard, lui a demandé « Dis-moi, quel est le nombre des années de ta vie ?» Et Jacob lui répondit « Le nombre des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. » Beaucoup ont pensé tout bas ce que quelqu'un a dit tout haut. « La jeunesse est une erreur. » L'âge mûr est un combat et la vieillesse est un regret. Mais lui n'en est pas encore à ses considérations. Ce qu'il veut, c'est être libre. Et il se dit « Vivement mon instruction religieuse et ma confirmation terminée, et ma première communion sera ma dernière communion. » Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que derrière ces grands airs de liberté, quelqu'un le manipule à son insu, quelqu'un est en train de le mettre en cage. Avez-vous déjà essayé de conduire un cochon quelque part? Je me souviens de cette expédition où j'accompagnais un fermier et un boucher pour mettre un cochon dans une cage. En criant, et je vous épargne les décibels, le cochon allait partout, sauf là où nous voulions qu'il aille. Quelle tête de cochon que ce cochon-là! Quand enfin on y est arrivé, tout le monde était en sueur. Le boucher, le fermier, moi et même le cochon. Mais un jour, et ici le tableau change, les gens d'un village ont vu un paysan qui conduisait son cochon à l'abattoir et spectacle inusité. Le cochon y allait en le suivant docilement. En regardant de plus près, on s'est aperçu que le fermier tenait un petit sac sous le bras et que, de temps à autre, il laissait tomber quelques grosses fèves par terre. Et ainsi notre cochon, de haricot en haricot, s'en allait goulûment à l'abattoir. J'aurais bien garde de nous assimiler à un cochon, mais nous avons aussi affaire à quelqu'un qui veut, qui nous veut chez lui, là où, comme on a osé le dire, là où il fait trop chaud et d'où on ne revient plus. Lui aussi nous jette en pâture autant de fèves qu'on en veut, pourvu qu'on atteigne sa destination maudite. Il nous donnera les fèves du succès, les fèves de la gloire, les fèves de la volupté, les fèves de la richesse, les fèves du pouvoir. Il nous donnera des truffes s'il le faut, pour nous faire tomber dans le gouffre du malheur sans fin. Là où il y a des pleurs et des gémissements de dents, des grincements de dents pour l'éternité. Voyons à présent avec quoi il commence son aventure. Il la commence avec ce qu'il n'a pas gagné, avec ce qui ne lui appartient pas en propre. Il est aussi vrai que très peu nous appartient. Notre vie est un don. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Notre mesure de santé est un don. Notre appartenance à l'un ou l'autre des 10 pays les plus riches du monde est un don. Nous n'avons pas choisi d'y naître. Notre héritage chrétien est un don, nos facultés, notre potentiel intellectuel, notre esprit de créativité ou d'entreprise sont un don, et nous ne sommes que les administrateurs de ces dons que nous sommes appelés à gérer. Et il nous faudra rendre compte de cette gestion. Il faudra rendre des comptes de ce que nous aurons fait de notre temps, de comment nous aurons géré nos pensées, nos mains, nos sentiments, notre argent, nos facultés, notre corps, et même notre planète qui, si nous n'y prenons pas garde, va finir asphyxiée par la pollution que nous y apportons. Il faudra répondre de tout au grand jour du règlement des comptes que la Bible appelle le tribunal de Dieu, où chacun devra comparaître. Et c'est sans doute la gravité de la chose qui explique le silence du Père. Plutôt que de parler de silence, il faudrait parler de la douleur de Dieu. On dit que les grandes douleurs sont silencieuses. Dieu, symbolisé ici par le Père du jeune homme, ne prend jamais son parti de notre éloignement et de notre perdition. Il en souffre, même s'il ne dit rien. Dieu nous respecte jusqu'à nous laisser partir. Mais il sait une chose, c'est qu'il nous a fait à son image. Un lien de race nous unit à Dieu, comme l'a si bien dit le poète. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un Dieu déchu qui se souvient des cieux. Dieu a mis ce souvenir de lui-même en nous, la pensée de l'éternité. Cela aussi le jeune homme l'emportait avec lui, tout au fond de sa besace. Et quand il touchera le fond, il y trouvera le portrait de son père. Je garde le souvenir de cette période agitée de ma vie où, au fond de ma valise où je l'avais enfui, j'ai retrouvé le portrait de mon Père Céleste. C'était un dimanche. J'avais sauté l'heure d'un culte évangélique où je me rendais parfois pour apaiser ma conscience torturée par mes échecs à répétition. J'avais bu plus que de raison. Et je me suis laissé entraîner dans la ville voisine, dans l'un de ces endroits où des Nord-Africains règlent leur compte en jouant du couteau. Très tard dans la nuit, je suis rentré en titubant sous l'effet de l'alcool. Mais chose étonnante, mes pensées, cette nuit-là, étaient d'une rare lucidité. Je me suis pris en dégoût et je me suis dit... qu'un animal ne descendrait pas si bas. J'étais descendu au niveau de mes cochons. Et j'ai su, ce soir-là, qu'à moins d'une intervention de Dieu dans ma vie, tout était perdu. Tout était perdu pour moi. Et ce fut d'ailleurs la dernière fois. J'ai su, à cette heure, que j'avais porté atteinte à la dignité d'homme que je tenais de Dieu. C'est là que j'ai touché le fond de la besace dont je viens de parler, et c'est là que j'ai retrouvé le portrait de mon père. Mais, en attendant, le pays éloigné correspond assez bien à l'image qu'il s'en était faite, à sa boum, autrement qu'à la maison. Ai-je été assez fou de ne pas en profiter plus tôt? Et il puisse sans compter dans son capital physique, son capital psychique, et dans son capital tout court. Il s'amuse comme un fou et rentre le soir avec le cœur tout plein de vide. Il s'aperçoit que pour être heureux, il doit toujours augmenter la dose, toujours doubler la mise. Son nouveau bonheur est à ce prix. Il évite d'être seul. Il lui faut quelqu'un avec lui, parce que quand il se retrouve seul, ses comptes ne tombent pas juste. Il y a un manque quelque part. La mesure n'est jamais comble, même quand il met les bouchées doubles. sa bourse aussi se creuse, comme se creuse le fossé qui le sépare du bonheur. On raconte qu'un homme est un jour allé voir un médecin car il ne se sentait pas bien depuis longtemps, mais il ne pouvait pas définir de quoi il souffrait. Le médecin n'a pu diagnostiquer aucune maladie. Il a dit « Mais vous n'avez besoin de rien d'autre que de vous changer les idées. Prenez un peu de bon temps. » Comme l'homme ne se montrait intéressé par rien de ce que lui proposait le médecin, ce dernier lui suggéra d'aller au cirque où se produisait un clown qui, dit le docteur, aurait fait rire un mort. L'homme secoua tristement la tête et dit « Docteur, ce clown, c'est moi. Je voudrais tellement rire aussi de la joie que je donne à tous ces gens, mais je ne le peux pas. » Une femme disait « J'ai un appartement à la ville et une maison à la campagne. Quand je suis à la ville, je voudrais être à la campagne. » Et quand je suis à la campagne, je voudrais être à la ville, je ne suis jamais satisfaite. Une jeune fille de 17 ans qui avait tout pour être heureuse devait rendre pour l'école une dissertation sur le bonheur. Et elle a dit à 17 ans, « Je ne sais pas ce qu'est le bonheur. » Et puis nous arrivons à la famine. Ça arrive la famine, oui. Ça arrive, les restrictions, le chômage, les mauvaises récoltes. Et ça coïncide avec lorsqu'il eut tout dépensé, ça ne pouvait pas tomber plus mal. On l'a vu faire la file au bureau de placement. Il aurait pris n'importe quel travail, éboueur, balayeur de rue, laveur de vitres, mais il ne restait plus rien. Ah si! Une place mal payée dont personne ne voulait. Il a été pris à l'essai chez un grossiste en élevage de cochons pour un salaire de misère. Cette vie qu'il voulait si large allait maintenant en se rétrécissant comme un entonnoir. Il était dans un cul-de-sac. Écoutez ceci. Il avait refusé la discipline de son père, il allait connaître la discipline d'un étranger. C'est à cela que la main invisible de Dieu voulait l'amener, à découvrir qu'il était dans une situation sans issue. Sa repentance est venue dans la réflexion et non avec des décibels. Il avait un esprit cartésien, ce gosse, écoutez-le dire. « Dans la maison de mon père, il y a des biens en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Son estomac vide lui donne une tête pleine. C'est étonnant comme on peut devenir lucide quand tout craque autour de soi. Édith Piaf, nous le savons, chantait « Je ne regrette rien ». Elle a laissé un testament qui ne devait être publié qu'après sa mort et dont je citerai des extraits. Voici, je lis. Il y a des choses que je n'ai jamais dites parce qu'on n'ose pas les dire. Mais il y a un moment dans la vie lorsque la maladie vous frôle avec opiniâtreté, lorsqu'on sent la mort rôder, on est obligé de faire le point avec soi-même, ou on se demande si on n'a pas vécu pour rien. J'ai fait des sottises. Souvent, j'ai été injuste, parfois même méchante. J'ai gaspillé mes forces, ma santé, ma fortune. J'ai été prodigue en tout d'une manière exagérée, folle. Je me suis cherché et trouvé mille circonstances atténuantes. Aujourd'hui, je n'en ferai rien. Je veux me pencher sur ma vie et me juger franchement, sans tricher, sans excuse. Alors, à chaque échec, à chaque déception, je me suis enfoncé un peu plus dans la certitude que ce que j'attendais n'arriverait jamais. C'est depuis ce moment-là que j'ai commencé à me détacher de plus en plus de la vie. J'ai accumulé les sottises alors que j'aurais dû acquérir la sagesse. C'est depuis cette époque que je ne parvins plus à m'accrocher à rien, que j'ai connu la peur de mourir toute seule, sans personne auprès de moi. Brutalement, tout s'est éclairé en moi. Je me suis aperçu que lorsque la maladie m'abattait et qu'on m'annonçait que j'étais perdu pour la chanson, personne ne venait me trouver. Je me souviens de cette nuit de Noël où j'avais à tout prix voulu quitter la clinique pour recevoir mes amis. J'ai fait téléphoner à tous par ma secrétaire et quand à 3 heures du matin, je me suis résigné à me coucher. Personne n'était venu. J'étais toute seule, horriblement seule dans ces grandes maisons que j'avais voulu grandes pour recevoir mes amis. Mon Dieu, comme je regrette aujourd'hui, comme je voudrais pouvoir tout recommencer à zéro, comme j'ai changé. Je retrouve soudain ce besoin de pureté, cette envie de pleurer qui m'envahissait lorsque j'étais une petite fille, cette envie de poser ma tête contre une épaule amie et de fermer les yeux, de me reposer enfin. Quand je pense à ma vie, à toutes ces débauches de force, j'ai honte de moi. Quand je revois cette petite femme engoncée dans sa fourrure, qui traîne la nuit sa solitude et son ennui, je pense que piaf, ça a été ça. Quel constat d'échec! Lui, ce fils prodigue, a fait ce que piaf n'a probablement pas fait. Il n'a pas seulement dit « je regrette », il n'a pas seulement dit « je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Non, il s'est levé et il est revenu à la maison. Il n'est pas resté au niveau de ses émotions. Passant des paroles à l'acte, il a mis sa volonté en action. Il s'est levé et il est allé se jeter dans les bras de son père. Il est aussi à remarquer qu'il est rentré tel qu'il était. Il n'a pas pris un bain avant de retourner chez son père. Il n'est pas passé chez le coiffeur ou le parfumeur. Il n'a pas loué un costume pour la circonstance. Et surtout, il n'a pas emmené un cochon avec lui, ne fût-ce qu'un mignon tout petit cochon. Non, il n'était pas dégradé à ce point. Les cochonneries de sa vie passée, débauche, grivoiserie, pornographie, astrologie, ivrognerie, mensonge, fanfaronnade, inimitié, jalousie, querelle, selon la terrible liste qu'en donne la Bible dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, il les a laissés à la porcherie. La porcherie d'un genre de vie qu'il quittait pour toujours. Et s'il est rentré tel qu'il était, c'est non seulement parce qu'il était au bout du rouleau, mais c'est parce que son père seul pouvait opérer en lui un changement en profondeur. Nous non plus, nous ne pouvons pas espérer changer notre nature profonde souillée par le péché. C'est plus que la surface qui est atteinte, ce sont les profondeurs de notre âme qui doivent être changées. Un voyageur s'est arrêté un jour dans une auberge historique, où il a pris un repas. Tout en mangeant, il a remarqué que le sol n'avait pas l'air très propre. Mais en le regardant de plus près, il s'est aperçu qu'il était fait de terre battue comme autrefois. Le laver à grandes eaux et tenter de le récurer l'aurait transformé en boue. De même, je ne peux pas espérer changer ma nature profonde. C'est plus que la surface qui est atteinte, c'est la texture même de mon âme qui doit être changée, qui doit être refaite. Et Dieu seul possède le secret d'une telle transformation. Nous devons lui faire confiance. Il faut la foi, la confiance pour se laisser faire par lui. Mon estomac peut dire comme ce jeune « j'ai faim ». Ma raison peut dire « dans la maison de mon père ». Ma conscience peut dire « j'ai péché ». Ma volonté peut dire « je me lèverai ». Mais le reste lui appartient, le salut lui appartient. Ce salut, notre salut, il l'a fait tout seul en dehors de nous à la croix. Ce sol d'auberge qu'est notre âme, non récurable, car plus on essaie, moins on y arrive. Ce sol devenu boueux, encore par nos vains efforts, nos essais de récurage et nos péchés, eh bien ce sol boueux, il s'en est chargé à la croix. C'est ce que disait le prophète 700 ans à l'avance, quand il visualisait l'avenir. Je suis enfoncé dans une boue profonde sans pouvoir prendre pied. Je suis tombé dans un gouffre. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Sur cette croix, le Fils de Dieu prenait notre vieille nature à son compte et il en subissait les affreuses conséquences à notre place. Et comme le fit le Père pour ce jeune homme en haillons, notre Père céleste veut nous revêtir de sa nature à lui, pure et durable. J'ai bien dit durable, parce que ce que Dieu fait durera toujours. Voyez ce que Dieu tient en réserve pour ceux qui reviennent à lui en disant « j'ai péché » et en croyant que ces péchés que l'on avoue et dont on se repent ont été portés par son Fils à la croix, écoutez-le dire, « apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez. Fini les haillons et les mauvaises odeurs. Mettez un anneau au doigt. Fini le temporaire, car un anneau n'a ni commencement ni fin. Où que vous soyez sur un anneau, vous n'arrivez jamais au bout, c'est le symbole de l'éternité. Mettez-lui des sandales aux pieds. Fini les écorchures inutiles du va-nu-pied. Ses pieds le conduiront désormais dans d'autres endroits qu'il fréquentait. Il marchera selon une autre norme de conduite, celle que la Bible donne dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. » Et puis encore le Père dit « Amenez le veau gras et tuez-le, fini la disette du cœur, fini le vide que rien ne pouvait combler. » Remarquez surtout la clôture de cet épisode. Ils commencèrent, et je souligne, ils commencèrent à se réjouir. Cela veut dire que la grande fête du retour à la vie, la fête de l'accueil et du salut, ce n'était que le commencement. La paix, la joie, les certitudes, la communion d'esprit avec les autres rachetés, les chants, en un mot, tout ce que Dieu donne à un homme lorsqu'il se convertit, ce n'est jamais que le commencement. Pour celui qui est sauvé, le meilleur est toujours devant lui. Mais quelqu'un va peut-être se dire ou dire, « Oui, mais moi, est-ce que Dieu m'acceptera ?» C'est ce que pourrait penser quelqu'un qui écoute cette prédication, qui aimerait revenir à Dieu. Quelqu'un qui se dit, « Oui, le fils prodigue, lui savait que le Père le recevrait, mais moi, je n'en suis pas sûr. » Quand je revois... Comme Édith Piaf, ma vie sans tricher, je n'ai même plus la force de demander pardon, tant il me semble que Dieu ne pourra jamais me pardonner. Voici quelques années, un jeune homme révolté s'était pris d'une violente querelle avec ses parents. Il quitta la maison en jurant qu'il n'y remettrait plus jamais les pieds, et c'est ce qu'il fit. Des années passèrent sans qu'il donne signe de vie à ses parents, mais le temps, les souvenirs et ses échecs finirent par avoir raison de son endurcissement. Il n'était plus si sûr d'avoir eu raison d'agir comme il l'avait fait. C'est alors qu'il éprouva l'impérieux désir de rentrer chez lui. Et dans le train qui le ramenait au pays, il fut pris d'une émotion tellement visible qu'un voyageur qui était dans le même compartiment s'approcha et demanda ce qui n'allait pas et s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Le jeune homme lui raconta son histoire et il ajouta « J'ai écrit à mes parents que s'ils voulaient encore de moi, je rentrerais. » Et comme la ligne de chemin de fer passe au bout du jardin, je leur ai demandé de pendre un linge blanc bien en évidence sur un des arbres au fond du jardin. Monsieur, nous approchons de l'endroit et je n'ose pas regarder par la fenêtre de peur de ne pas voir de linge accroché à l'arbre. Le voyageur s'offrit à regarder à sa place, et, arrivé à l'endroit, il lui cria « Venez voir, il y a un linge blanc sur tous les arbres du jardin !» Pour être bien sûr que leur fils ne manque pas le signal, ils avaient couvert le verger du signe convenu. C'est aussi ce que Dieu a fait. Pour nous dire qu'il nous aimait et qu'il nous attendait, il nous a donné le plus grand des signes. Sur le bois de la croix, il a laissé attacher non pas un linge blanc, mais son propre fils. C'est ce que la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette phrase, vous la trouverez dans le chapitre 3 et au verset 16 de l'évangile de Jean. C'est l'appel, l'ultime appel de Dieu pour vous, à une repentance sincère comme celle de ce jeune homme dont nous venons de parler. Ajoutez la foi dans la promesse qu'il vous fait de ne pas périr éternellement, mais de vivre à toujours pour lui et avec lui. Et en terminant tout à fait cet après-midi, recueillez-vous quelques secondes et dans une prière intérieure, du fond du cœur, dites à Dieu, et vous pouvez répéter ces quelques mots que je dis lentement, les dire à Dieu comme s'ils étaient les vôtres. Dites-lui, ô Dieu, je reviens à toi maintenant. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait et pour t'avoir offensé. Dites-lui, je crois que tu as livré ton propre fils pour être condamné et mourir à ma place. Dites-lui, Seigneur, je le crois comme pour la première fois. Tu me fais signe de revenir, et à cet instant, je reviens à toi. Seigneur, aide-moi à désormais vivre pour toi. Merci, Seigneur, de m'accueillir. Je crois que tu m'accueilles cet après-midi. Merci. Amen, Seigneur. Amen. Nous pouvons maintenant envisager de nous revoir tout à l'heure. Nous avons du temps libre. Moi, je reste à votre disposition si vous désirez poser des questions. N'hésitez pas de me communiquer vos interrogations. Nous avons donc été bien heureux de nous revoir. Je vous souhaite un bon après-midi ensemble dans les quelques jeux qui suivront. Mais n'oubliez pas la chose essentielle, c'est de revenir au Seigneur. À tout à l'heure.